Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, il est 8h et il fait frais, Géraldine.
Frais, mais un temps plus calme, avec quand même de belles éclaircies pour aujourd'hui. Quelques passages nuageux aussi, beaucoup de soleil sur le quart sud-est avec du vent près de la Méditerranée. Des averses orageuses qui vont arriver cet après-midi sur les Pyrénées. Averses orageuses parfois fortes avec du grésil. Mais effectivement, températures qui sont encore en baisse. On a plutôt des températures dignes d'une fin mars, début avril. Cet après-midi, il fera 13 à 19 degrés en général, 20 à 25 près de la Méditerranée. Et ces températures vont baisser encore dans les prochains jours.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On sera en direct de Nice dès le début de ce journal, au lendemain de la fusillade mortelle en pleine journée, sans doute sur fond de trafic de drogue. Vous allez entendre les habitants niçois complètement excédés. Vous verrez aussi que le protocole se durcit ce matin pour les cas contacts à l'antivirus. Désormais, la règle, c'est le placement en quarantaine. Et vous entendrez les jeunes conducteurs, pas du tout exemplaires au volant. Un sur deux utilise son téléphone d'après le tout dernier baromètre de la Fondation Vinci Autoroute.
On est de retour ce matin à Nice, dans le quartier des Moulins.
Oui, c'est dans ce quartier connu pour le trafic de drogue qu'un homme a donc ouvert le feu hier en plein après-midi, faisant deux morts sur une place qui était fréquentée. Il y avait du monde à ce moment-là. C'est la piste du narcotrafic qui est privilégiée par les enquêteurs. Anna Jojard, correspondante d'RMC dans la région, vous êtes en direct de ce quartier ce matin et vous nous dites que les habitants sont encore sidérés d'avoir assisté à une fusillade en pleine journée.
Oui, mais la place Amaryllis, le lieu du drame, reprend doucement vie. Les commerçants sortent leurs étals pour le marché. Les parents amènent leurs enfants à l'école. Tout ça à une dizaine de mètres du lieu de la fusillade d'hier. Une fusillade qui est évidemment dans toutes les têtes des habitants ce matin. Comme Valérie, qui habite le quartier depuis 30 ans, elle a tenu à boire son café juste à côté du lieu du drame pour montrer qu'elle n'a pas peur.
Je suis là parce que moi j'estime que il faut quand même sortir. J'ai pas peur d'eux. Par contre, c'est inadmissible qu'ils puissent agir de telle façon. Ça aurait pu être de balles perdues sur des enfants. Donc moi, ça me met hors de moi.
Le procureur a précisé que les deux personnes qui ont été tuées ici hier, âgées de 38 et 57 ans, ne présentaient pas d'antécédents liés au trafic de stupéfiants. Le tireur a fait aussi 6 blessés par balle. 3 d'entre elles sont en urgence absolue. Et sur ces 6 blessés, 3 étaient connus par la police pour narcotrafic.
Voilà, Anna Jojard, en direct de Nice ce matin pour RMC. C'est certainement le musée du Louvre qui a été visé par un projet d'attentat. C'est ce qu'écrit le journal Le Monde. Après la mise en examen d'un Tunisien de 27 ans, écroué hier dans la soirée, car soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque terroriste dans la capitale visant un musée et la communauté juive. Il est 8h03 sur RMC, on a l'impression d'être de retour 6 ans en arrière ce matin, à l'époque du Covid, souvenez-vous, quand on parlait de masques, de cas contacts, de quarantaine. À 8h30, par exemple, c'est le professeur Gilles Pialoux, qu'on connaît bien maintenant, qui sera l'invité d'RMC pour parler donc de l'antivirus qui s'est propagé à bord d'un bateau de croisière. Alors cette fois, l'Organisation Mondiale de la Santé assure qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais il y a 5 Français pris en charge à l'hôpital Bichat de Paris, ceux qui étaient à bord du bateau, la plus durement touchée étant en réanimation, toujours ce matin. Et il y a aussi 22 cas contacts. Et alors la nouveauté, Solène Leroux pour RMC en direct ce matin, c'est que de nouvelles consignes sont données, ça y est, le protocole se durcit. C'est ce qui a été décidé hier soir lors d'une réunion à Matignon.
Oui, la nouvelle règle, c'est l'isolement pour tous, peu importe leur risque d'exposition et leur mise en quarantaine. On démarré hier, d'autres commenceront ce matin selon BFM TV. Les premiers concernés, ce sont les 14 passagers d'un vol qui reliait Johannesburg à Amsterdam. Ils ont été en contact brièvement avec une passagère du bateau, décédée depuis. Les 8 autres sont plus exposés car ils ont passé plusieurs heures dans un autre avion avec cette même croisiériste. Parmi eux, il y a un habitant de Concarneau dans le Finistère, ce qui peut provoquer l'inquiétude dans cette commune. Écoutez le maire Quentin Le Guillard qui se veut rassurant.
Si on apprenait que cette personne a été porteuse de l'antivirus, on prendrait des mesures, évidemment. Néanmoins, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ne crions pas avant d'avoir mal, attendons et voilà, ne propageons pas surtout de fake news, c'est le plus important.
Et à noter que pour l'heure, les seuls cas confirmés d'antivirus sont des anciens passagers du bateau.
Alors le bateau en question, il a quitté hier les Canaries, direction les Pays-Bas. Et on voit ce qui se passe là-bas, aux Pays-Bas. C'est très intéressant, Solène Leroux, avec manifestement une sacrée bourde dans un hôpital qui traite un patient contaminé.
Oui, au total, ce sont 12 employés de l'hôpital de Nimeg, dans l'est des Pays-Bas, qui sont concernés. Ils sont placés en quarantaine pendant 6 semaines. Ça fait suite à des erreurs de procédure, que ce soit pour un prélèvement sanguin ou pour l'élimination de l'urine d'un patient contaminé à l'hantavirus. Une procédure plus stricte aurait dû être appliquée, ce qui explique que le personnel ait été confiné. L'hôpital assure que ce sont des mesures de précaution, même si le risque d'infection est faible.
Voilà, le personnel de l'hôpital qui n'a pas appliqué le bon protocole. C'était Solène Leroux en direct ce matin pour RMC. Ça, c'est une conséquence de la guerre au Moyen-Orient. Le gouvernement élargit ses prêts flash, ses prêts carburants pour les entreprises désormais du BTP. Elles n'étaient pas concernées jusque-là. Le dispositif concernait seulement les routiers, les taxis, les agriculteurs et les pêcheurs. Ça, c'est un chiffre qui attire notre attention ce matin et qui va forcément attirer la vôtre également. Un jeune sur deux utilise son téléphone en conduisant pour envoyer des messages, notamment. Ils sont pas les seuls, hein. Il y a 29% des Français qui le font, mais ça grimpe quand même à 49% chez les moins de 25 ans. Écoutez-les, ils expliquent pourquoi à Philippine Boulet pour RMC.
En voiture, le téléphone d'Abdel, 18 ans, est toujours à portée de main.
C'est une habitude, ouais. Je change la musique, je réponds à des messages.
Une habitude qui a bien failli lui causer un accident sur l'autoroute.
Juste à l'heure, là, que je changeais de musique, justement. Je voyais un camion, il sort de nulle part. Il est venu comme ça, j'ai pilé.
Des frayeurs, Maëva, 22 ans, en a aussi eu.
J'ai failli avoir un accident.
À cause de quoi ?
De la vitesse et le téléphone.
C'était il y a 3 semaines. Depuis, cette jeune conductrice assure avoir réduit son usage du téléphone au volant. Elle s'est même acheté un support.
Pour poser le téléphone et plus l'avoir dans les mains.
Sinon, ouais. Vous l'aviez beaucoup dans les mains ?
Tout le temps, pour changer la musique, répondre aux messages.
À côté d'elle, son amie Manon, 25 ans, elle aussi essaye de se passer de son téléphone quand elle conduit, sans succès.
J'arrive pas. Je suis trop curieuse pour savoir ce que mes copines elles veulent me dire.
La seule chose qui pousse Manon à garder les deux mains sur le volant, c'est son père.
Avec mon papa, on a une application pour se localiser. Et bien, l'application lui envoie des notifications si je touche à mon téléphone quand je conduis.
Pourtant, les deux conductrices savent qu'il est dangereux d'utiliser leur téléphone au volant. Selon la sécurité routière, lire un message en conduisant multiplie par 23 le risque d'accident.
Tiens, on parle des jeunes. Il y a le petit Robert qui, ça y est, se met à la page, hein, comme chaque année, en incorporant de nouveaux mots à la dernière édition de son dictionnaire. C'est un peu un reflet de l'époque. Sont ajoutés pour l'édition à venir les mots banger, ça c'est un morceau de musique qui cartonne, charo, ça c'est un homme qui aime bien les conquêtes amoureuses, ou encore matrixé, ça c'est quand on se fait laver le cerveau. Ça, c'est encore Ousmane Dembélé qui a matrixé la soirée des trophées UNFP hier, les trophées du foot français, sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la deuxième année d'affilée cette saison. Le Lensois Pierre Sage lui est désigné meilleur entraîneur. Et alors l'OM, l'Olympique de Marseille, prépare la saison prochaine. Première grosse annonce, hein, Clément Brossard pour RMC, Grégory Lorenzi va devenir le nouveau directeur sportif.
Oui, l'OM ne veut pas perdre de temps pour préparer l'avenir et celui-ci s'écrira avec Grégory Lorenzi. Le directeur sportif a mené le Stade Brestois de la Ligue 2 à la Ligue des Champions disputée l'an dernier. Son départ a été officialisé vendredi et son nom revenait avec insistance à Nice. Mais c'est finalement le projet marseillais que le Corse de naissance a choisi pour y avoir les pleins pouvoirs sportifs. Dès sa prise de fonction, il aura pour mission de déterminer le futur entraîneur et dessiner les contours du nouvel effectif, sachant que sans Ligue des Champions l'an prochain, l'OM va devoir vendre des joueurs. Si l'arrivée de Grégory Lorenzi n'est pas encore officielle, l'ex-défenseur central devrait venir à Marseille dans les jours qui viennent afin d'acter cette nouvelle aventure et pourquoi pas commencer quelques entretiens en vue de l'intersaison. Il y rencontrera certainement le futur président Stéphane Richard, officiellement en poste le 2 juillet, pour commencer à fonder les bases de la saison prochaine et entamer un nouveau cycle.
Bon, j'ai d'autres infos à vous donner en foot. D'abord, sachez que c'est jeudi, bon, ça vous savez déjà, que Didier Deschamps dévoilera la liste des bleus retenus pour le mondial qui commencera dans un mois en Amérique et vous vivrez sur RMC Radio Officielle. La Bosnie, premier pays hier, a dévoilé sa liste. Petite surprise, tiens, au Brésil, où Neymar fait partie d'une liste élargie d'une cinquantaine de joueurs. Et alors, pas de bol pour les enfants au Mexique. Il était question d'avancer les vacances scolaires en raison de la Coupe du Monde notamment et des 13 matchs qui vont se dérouler là-bas au Mexique. Mais finalement, ça ne se fera pas. Les enfants auraient pu partir quand même avec 40 jours d'avance en vacances. Pas leur place là, ce matin.
Oui, j'avoue que là, ce matin, ils doivent être déçus. C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09, on parle économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Emmanuel, ce matin, on n'en sait plus sur les finances des familles monoparentales et ce sont en effet les plus fragiles de la société française.
Oui, les chiffres sans phare, les voilà. 62% des familles monoparentales craignent chaque mois de manquer d'argent pour couvrir les besoins essentiels de leurs enfants. C'est ce que montre l'enquête que vient de publier Cofidis avec CSA. Elles sont 41% ces familles monoparentales à juger leur pouvoir d'achat faible. 23% sont à découvert à la fin du mois. mois. C'est deux fois plus que l'ensemble des familles françaises. Plus de 7 familles monoparentales sur 10 font particulièrement attention au prix des produits qu'elles achètent, réduisent leurs dépenses non essentielles, contre 5 familles sur 10 dans la population générale.
De qui on parle ? Qui sont ces familles monoparentales ?
Alors, 3 fois sur 4, le parent seul est une femme. La plupart du temps, elle a la garde exclusive de ses enfants. Elle reçoit moins de 3000 euros de revenus par mois, essentiellement son salaire. Les aides sociales ne concernent qu'une minorité de foyers, 9% seulement. Je vous avoue que j'étais un peu surpris par ce chiffre que je pensais plus élevé. La majorité assume seule l'intégralité de ses dépenses. Leur priorité, c'est évidemment les enfants. 37% des dépenses mensuelles leur sont consacrées en moyenne, jusqu'à la moitié pour les familles de 3 enfants. Les postes de dépenses les plus élevés, c'est évidemment l'alimentation et la cantine. Là, on est sur des budgets de presque 1600 euros par an. Ensuite, il y a quand même les vacances, 938 euros par an, l'habillement ou le mode de garde. Les dépenses le plus souvent sacrifiées, ce sont les vacances, les vêtements et les jouets.
Merci Emmanuel d'avoir fait le point ce matin. Et puis comme chaque jour, les prix du jour, ça monte ou ça descend ?
Le gazole, toujours petite descente en pente douce. Hein, 2,15 euros le litre contre 2,22 euros il y a une semaine. Le samplon 95, c'est stable, 2,02 euros. Mais on s'est installé depuis 2 semaines au-dessus de la barre des 2 euros le litre.
Ça ne repasse pas en dessous.
Et ça ne repasse pas en dessous. Le pétrole, 105 dollars le baril. Là encore, hein, ça oscille, mais on est au-dessus de 100 dollars depuis le 22 avril maintenant. Et puis le gaz, ça monte un peu, 47 euros le mégawatt-heure, c'est 4 euros de plus qu'il y a une semaine.
Merci Emmanuel.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant, Arnaud Demange débarque pour nous faire rire. Notez qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Une personne malade en réanimation, 4 personnes à l'isolement strict, 8 personnes depuis ce matin cas contact considérées à haut risque et 14 autres cas contact qui vont rejoindre l'hôpital dans la matinée. Est-ce le début d'une épidémie ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Toutes les réponses du professeur sur l'antivirus, c'est donc à 8h30. Juste après, il y aura Face à Canteloup, Nicolas Canteloup comme tous les jours, en direct à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 sur RMC et RMC Story. Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud.
Et bonjour Apolline. Bonjour les amis. Bienvenue dans cette chronique croquante gourmande. J'espère que vous allez bien en ce 12 novembre.
Oui.
Qu'est-ce que c'est cette météo, Géraldine de Maury?
C'est l'automne.
Je vous propose de commencer avec le hantavirus. Hein, on y va direct. Là, il y a des nouveaux cas contacts. Ah, on se retrouve tellement 6 ans en arrière. On recompte les cas contacts. On se méfie des gens qui toussent. T'écoutes les flash infos, là, c'est Radio Nostalgie. Que des vieux tubes. C'est comme, est-ce qu'on aura assez de masques ? Mais aussi, les soignants n'ont pas de moyens. Et encore, à 9h, le décompte du professeur Salomon.
Aujourd'hui, on a eu 48 morts. Mais ne paniquez pas, tout est sous contrôle.
Ah, oh, c'est tellement rétro. Allez, ce soir, je me fais un petit kiff. Je me mets à la fenêtre, j'applaudis les soignants.
Ouais.
Ce matin, je suis arrivé, j'ai vu notre médecin Aurel Gage. Je l'ai applaudi direct. Il m'a dit, ah ouais, t'es déjà au courant pour ma nouvelle meuf. J'ai dit, non,
c'est Covid. Non.
Moi, j'attends même le discours d'Emmanuel Macron. Allons-y. Française, Français, nous sommes en guerre. Alors, pas en Iran, c'est trop dangereux, mais contre le hantavirus. Et qu'est-ce qu'il faut contre un hantavirus ? Un antivirus. En tout cas, cette crise est l'occasion de découvrir notre ministre de la Santé. Qui c'est ? 3 propositions. Catherine Vautrin, Nathalie Rist, Olivier Glombard.
On l'a, moi je l'aime.
Stéphanie Rist, oui, elle l'a eu.
Il y avait un piège.
Stéphanie Rist. Alors, c'est quoi le hantavirus ? Eh bien, c'est un virus qui peut provoquer des vomissements, des vertiges, des maux de tête et qui est mortel dans 30 à 60% des cas. Ça se voit que celui-là, il vient pas de Chine. Il a l'air de qualité, il va tenir un peu plus de 3 semaines et il est transmis par les rats et les souris. Ça, c'est pas bon. Autant les pangolins à Paris, c'est rare que t'en croises. Les autres Vincennes, les arrière-cuisines de restos chinois, mais c'est tout. Par contre, des rats à Paris, il y en a entre 3 et 6 millions.
Oui, il y en a, oui.
Tout ça pour dire, Apolline, les amis, j'ai été très heureux de vous rencontrer. Ça m'a fait plaisir, ce temps qu'on a passé ensemble. Après, on nous a fait flipper avec la variole du singe et finalement... Il n'y avait rien eu, donc on ne va pas non plus paniquer pour la bronchite du surmulot.
Tout à fait,
on peut raison garder.
Les gardiens de la Révolution, voilà un thème autrement plein d'espoir, ont annoncé avoir créé une agence chargée de faire payer les droits de passage à Hormuz.
Oui, parce qu'on l'oublie, Apolline, mais C'est la guerre en
Mais
Iran,
oui.
là-bas. Et oui.
Ah là là.
Ah là là, ça continue, hein. Quelle histoire, ça aussi. Mais ça dure, ça dure. C'est horrible. Faire des vannes là-dessus jusqu'en juin. Jusqu'en juin, les vannes sur la guerre. Alors là, le Détroit, il est fermé, par exemple. Mais Trump a dit qu'il voulait le rouvrir.
Oui.
Mais les Iraniens, ils veulent le fermer.
Oui.
Peut-être qu'un jour, il sera rouvert. Mais pour l'instant, il est fermé.
Voilà, c'est
en tout cas, les Iraniens, ils veulent faire payer le passage via une agence gouvernementale. Mmh. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils créent des agences et ils veulent tout taxer. Les Iraniens sont donc macronistes. On ne savait pas.
On a lancé l'agence Iran-Hormuz. Après, on fera Iran-Travail, puis Iran-Autonomie et le porte-avions Iran-Libre et les chansons de Iran-Gal.
Non mais c'est vrai, je vous ai un peu chambré tout à l'heure, mais il se passe pas grand chose dans cette guerre au Moyen-Orient. C'est une guerre qui est moins violente qu'un soir de match de Ligue des Champions du PSG dans les rues de Paris. Il faut quand même se rendre compte de ça. Vous l'avez vu l'exposition de Yann Arthus-Bertrand qui a été démolie. En fait, il fait une expo photo sur le vivre ensemble qui a été détruite par des émeutiers Place de la Concorde. On dirait un rêve érotique de Vincent Bolloré, ça. Oh, fantastique, des sauvageons de banlieue qui saccage une expo bobo wokiste sur le vivre ensemble. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est fantastique. C'est le méchant de James Bond, Vincent Bolloré. Vous connaissez tous Yann Arthus-Bertrand, j'imagine, le photographe moustachu qui consomme 1000 litres de kérosène à l'heure dans son hélico pour nous dire « Regardez comme la Terre est belle, alors arrêtez de la polluer, bande de fous !» Au milieu des années 2000, quand on savait pas quoi offrir à Noël, on offrait son livre, La Terre vue du ciel, avec
Elle
un gros cœur.
Toutes les tables basses.
Toutes les tables. On offrait ça à un tonton qui, lui, l'année d'après, l'offrait à un autre membre de la famille. Et ça tournait en rond comme ça. C'était la boîte de mon chéri des livres photos.
L'économie circulaire.
L'économie circulaire, il y a pensé
avant. C'était avant Vinted. Ouais.
Bon, on a dérivé, on parlait du Détroit d'Ormuz.
Tout à fait, tout à fait.
Ouvert ou fermé, le Détroit d'Ormuz. Eh bien, c'est l'occasion d'un petit jeu. Ouvert ou fermé.
Oh là là.
Je vous donne des propositions. À vous de me dire si c'est ouvert ou fermé. Attention. La Poste en ce moment.
Fermé,
oui, il est 8h20.
Ah oui.
On est mardi.
Ah, bravo.
Puis on est mardi. Les fenêtres du Louvre.
Ouvert.
En vrai, c'est fermé, mais bon, coup de disqueuse.
C'est
8.
Fermé.
Le rayon Chine du BHV.
Ah bah
ouvert.
C'est
ouvert mais c'est vide.
Ah oui, c'est ouvert mais c'est vide, d'accord.
Nos frontières selon Éric Ciotti.
Ah bah ouvert.
Nos frontières selon Rima Hassan.
Fermé.
Le beurre. Hein? Attention, il y a un piège, il est fermier.
Oui,
il a eu.
Sur le beurre, il est bon.
Bah oui, sur le beurre, il est bon.
Ça, on peut dire que sur la bouffe, ça va.
Le coiffeur de Mathieu Béliard.
Ah,
fermé. La billetterie pour Patrick Bruel.
Non.
On ne sait pas, c'est comme le Détroit d'Ormuz. C'est la billetterie de Schrödinger. Non, là, c'est ouvert, mais ça pourrait se fermer. Allez, à demain.
À demain, Arnaud Demange, tous les jours et à tout moment, évidemment, en podcast. On va partir au 32-16. Il y a Stéphane qui nous appelle du Gard, vous êtes à Saz, aide-soignant. Bonjour Stéphane.
Et bonjour Apolline, bonjour à tout le monde.
Stéphane, vous êtes justement aide-soignant, on se souvient tous évidemment du coronavirus. Comment vous réagissez-vous ce matin? On le voit, finalement les 22 cas contacts vont tous être de manière systématique mis à l'isolement strict.
Bon ça déjà c'est une bonne chose, en soi là-dessus il n'y a pas photo, il faut isoler tout ce qui pourrait se développer potentiellement derrière. Mieux vaut prévenir que guérir, encore une fois. Moi, ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est je comprends pas en fait pourquoi est-ce que ce bateau n'a pas simplement à côté comme c'était prévu aux Canaries et qu'on a préféré prendre le risque de disperser autant de cas positifs, parce que je crois qu'il y a 6 pays concernés à l'heure actuelle. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a pris autant de risques de propager ce virus plutôt que de le laisser sur place. Et certes, les Canaries n'ont pas vocation à accueillir tout le monde, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais derrière, on aurait pu envoyer des hôpitaux militaires et tout sur place. Enfin, on aurait envoyé tout ce qu'il faut pour les patients réanimatoires.
Je vais vous dire, j'ai évidemment commencé à poser la question hier, à la fois à un certain nombre de responsables, mais aussi aux médecins. Alors, effectivement, ils vous disent, du point de vue médical, il n'y a pas photo, il aurait fallu les laisser sur le bateau. C'est-à-dire que, du point de vue médical, c'est comme dans l'ancien temps, quand il y avait des îles ou des bateaux qui restaient en quarantaine avant une arrivée véritablement sur la terre ferme ou sur le port. Ils disent, au fond, un bateau, c'est à la fois un cluster, mais c'est aussi un endroit qu'on peut contrôler évidemment ses entrées et ses sorties. Sauf que, bien visiblement, l'OMS aujourd'hui, elle est assez fragile, elle a beaucoup moins de moyens. Elle a dit, mais on n'a pas les moyens d'envoyer un bateau militaire à ses côtés parce qu'il fallait malgré tout pouvoir soigner les malades. Je vous rappelle que l'une des personnes qui a été rapatriée en France au moment où on se parle, elle est intubée, elle est en réanimation, donc c'est effectivement des moyens médicaux importants. La France en a les moyens, on a des hôpitaux sur des bateaux qui sont d'une très grande efficacité, mais là le problème c'était la coordination internationale. Ce qui est vrai, Stéphane, c'est que quand on voit qu'aux États-Unis ils n'ont pas le même protocole que nous, qu'en Australie, où il y en a certains qui arrivent, ils ont encore un protocole différent, qu'en Hollande, visiblement, ils ont fait des erreurs, disent-ils, dans la gestion, et que donc le personnel soignant est même considéré comme cas contact, et donc obligé de se mettre à l'isolement. Je suis d'accord avec vous que ça pose quand même la question, effectivement, de pourquoi les avoir dispatchés sur les cinq continents, quoi.
C'est un vrai souci, ça, justement, là, notamment les 12 soignants qui sont cas contact dorénavant potentiellement. Vraiment, l'OMS, effectivement, n'a peut-être pas les moyens, mais est-ce qu'aujourd'hui, alors la France, elle a les moyens pour l'instant de pouvoir pallier à ça, mais si derrière ça devait vraiment se développer encore une fois comme le coronavirus, voire pire, est-ce que derrière on pourra faire face? Là, j'en suis beaucoup moins sûr. Et par contre, d'autant plus que je souhaite vraiment bonne chance à nos forces politiques, hein, quelles qu'elles soient, ça je m'en contrefiche, pour derrière, si ça devait mal évoluer, pour
oui, instaurer des choses. Est-ce qu'on a encore les moyens du quoi qu'il en coûte? C'est une autre question. Ce que je trouve absolument inouï, effectivement, dans cette histoire, c'est qu'il y a à nouveau la question, en fait, internationale, la question de la coordination ou non, des moyens qui sont dévolus et de la pratique des différents pays. Merci en tout cas, Stéphane, pour notamment vos questions aussi ce matin, parce que je les poserai, ne manquez pas, dans un instant, mon invité, c'est Gilles Pialoux, professeur chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Il répond à toutes mes questions, les symptômes, les cas contacts, la contagiosité, les risques. C'est dans un instant sur RMC et BFM TV, 8h24.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour professeur Gilles Pialoux.
Bonjour Apolline.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon, auteur de nombreux livres, on va y revenir. Évidemment, ce matin, cette question. L'antivirus est donc présent sur le sol français. Une malade, 4 anciens membres du bateau de croisière, 8 cas contacts dits à haut risque et 14 cas contacts dits modérés. Qui, quoi, comment avons-nous les moyens de faire face? C'est toutes les questions pour lesquelles nous avons besoin de vos éclairages. D'abord sur la personne qui est aujourd'hui malade, infectée. On dit que son état est stable, mais qu'elle est en réanimation. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ce matin?
Alors c'est vrai que j'ai pas d'information directe puisque c'est quand même le blocus sur ça, mais effectivement elle est en réanimation. Comme vous le savez, ces virus des Amériques sont des virus qui touchent au niveau respiratoire et cardiaque. Ça a été expliqué tout à l'heure par Margot Fauville, et donc avec des atteintes assez sévères pulmonaires, avec quelque chose qui rappelle d'ailleurs sur ce point le Covid, c'est-à-dire que c'est plus la réponse immunitaire qui rend malade. Et c'est vrai que c'est important que ces patients soient dans des structures où ils ont l'habitude de cette réanimation qui peut être très lourde, qui peut aller, comme ça a été dit, jusqu'à la circulation extracorporelle. Et on l'a vu dans un exemple en Argentine à la fin des années 2018-2019.
On va revenir sur ces cas et sur ce que l'on sait de ce virus. Au moment où l'on se parle, effectivement, les 5 anciens membres de cette croisière, dont la personne malade, sont à l'hôpital Bichat à Paris. Les symptômes de cette maladie, ce sont lesquels?
Alors c'est vrai que il faut être un peu humble si je puis me permettre et accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas connaître.
Et par ailleurs, le virus lui-même peut avoir évolué.
Alors le virus, c'est un virus qui mute beaucoup. Hein, on est toujours dans les virus ARN et celui-là, les Argentins notamment qui en ont beaucoup chez les rongeurs ont déjà publié plusieurs séquences de ce virus des Andes. Donc c'est un, on a des nouveaux virus chaque année, un nouvel antivirus à peu près chaque année dans les sous-espèces. Et deuxièmement, une mutation permanente qui est presque plus élevée que celui du SARS-CoV-2, du Covid ou du VIH, pour prendre deux virus ARN. Donc, effectivement, il peut y avoir une mutation. Par contre, ce qu'on peut pas dire, personne peut dire si cette mutation qu'on observe régulièrement sur ces virus a un impact sur la transmissibilité ou un impact sur la gravité de la maladie qui est déjà fortement élevée.
La gravité de la maladie d'abord. Les premiers symptômes, semble-t-il, peuvent arriver de manière très soudaine. La malade en question, ce qui nous est dit, c'est que lorsqu'elle quitte le bateau, qu'elle monte dans l'avion, elle ne présente pas de symptômes. C'est dans l'avion qu'elle présente les premiers symptômes. Fièvre, semble-t-il.
qu'elle est testée et dans moins de 24 heures, on apprend un, qu'elle est effectivement atteinte du virus et deux, que son état s'est fortement aggravé. En 24 heures donc.
Ben ça, c'est, alors ça, c'est ce qui a été décrit effectivement notamment par les Argentins entre autres hein, et aussi les Chiliens, c'est qu'il y a une, et on a vu ça avec le cas index, c'est-à-dire il rentre le 1er avril à Ushuaia sur le bateau, le 6 avril il présente des symptômes.
Le cas index, c'est donc le premier malade, semble-t-il, celui qui monte sur le bateau atteint de ce mal. Et qui est mort depuis.
Parce que tout le monde nous dit, mais il y avait sûrement des rats sur le bateau. Là, pour l'instant, cette hypothèse est complètement écartée. Et donc, on est dans une hypothèse de quelqu'un qui rentre sur un bateau dans un milieu confiné et avec une transmissibilité qui va commencer par son épouse.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le déroulement, à la fois au moment où il semble le contracter, 1er avril, le moment où les symptômes commencent à se manifester et puis la dégradation?
Ce que je voulais vous raconter, le 1er avril, il monte. Le 6 avril, il a des symptômes qui sont assez banaux au début. Toux, fièvre, etc. Il va s'aggraver très très vite et il décède le 11 avril. Donc c'est une pathologie extrêmement rapide et ça, ça a été décrit dans le seul cas bien documenté qui est le cas de pentagonie qui a été publié en décembre 2020. Personne l'a vu parce qu'on était en plein Covid. Pourtant, c'était dans le plus grand journal, le New England Journal of Medicine. Et là, on avait 34 cas dans un anniversaire de 100 personnes. 34 cas. Un cas index, qui est celui qui reste 90 minutes dans la fête. Donc probablement qu'effectivement, il y a l'hypothèse qu'il faut quand même un contact durable. C'est un point important, hein, parce que souvent on nous dit, oui, il faut faire la différence avec le Covid, mais aussi une transmission par aérosol. Donc c'est pour ça que ces patients sont dans les centres de référence en France. Donc à Paris, il en existe trois, Necker pour les enfants, la Pitié-Salpêtrière et Bichat, qui a les cinq du bateau, et qui sont équipés en chambre à pression négative. Donc ça prouve bien qu'il y a à la fois une transmission par des contacts rapprochés et probablement durable, je répète, avec peu d'informations sur ces cas. Et c'est ce qui s'est passé dans le bateau, avec, il faut le dire quand même, des trous dans la raquette de la surveillance dans toute la chaîne qui s'est passée après.
Ça, on va y venir, parce que effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la manière ensuite dont les malades ont pu être même dispatchés, certains descendus en cours de la croisière et d'autres depuis même, alors que l'on sait tout ça, dispatchés. Gilles Pialoux, vous le disiez, 90 minutes dans une fête, un grand nombre de malades, 11 décédés, ça c'est ce cas d'école en quelque sorte que l'on a,
c'est sur ça qu'on travaille.
Analyse que l'on a. Pourtant, au tout premier jour, lorsqu'on a commencé à parler de cette croisière et de cette suspicion, je me souviens que les premiers commentaires disaient « Non mais c'est une maladie qui ne se transmet pas d'homme à homme ». Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, on manquait d'éléments, qu'elle-même elle a changé, elle a muté?
Non mais d'abord, il faut reconnaître que la plupart des gens qui parlent des antivirus, ça ne connaissaient même pas le mot. Au début de cette histoire de croisière. Bon, il se trouve, c'est pas pour faire le malin, mais moi, je m'intéresse à l'aspect One Health, qui est un aspect extrêmement important de ce type de virus. C'est-à-dire que ça inclut la santé animale, donc les rongeurs, entre autres, mais surtout les rongeurs, la santé environnementale, puisque c'est extrêmement influencé, la progression chez les rongeurs est extrêmement influencée par la déforestation, l'urbanisation des villes, la pluviométrie, etc.
Il s'agissait, semble-t-il, le lieu où le patient zéro aurait contracté cette maladie, d'une décharge dans laquelle, d'ailleurs, la plupart des locaux disent ne pas aller par crainte de contamination.
Alors, oui, je pense que ça va changer aussi la prévention pour les voyages. J'ai regardé hier soir, en pensant à vous, j'ai regardé sur le site du ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il y avait sur cette région-là. Eh ben, le 14 avril, alors je pense que ça a été modifié depuis, ou ça l'était avant, mais depuis le 14 avril, il y a des précautions, justement, pour les personnes qui vont dans ces régions de Patagonie ou du Chili, dont on sait que les rongeurs sont infectés. Donc ça veut dire les protections, c'est de pas ramasser des animaux qui sont morts, de mettre si on est dans un univers non ventilé, de mettre un masque, etc., etc. Enfin, il y a des protections que connaissent les vétérinaires, les forestiers, parce que c'est ces gens-là qui sont atteints par les antivirus. Il faut rappeler aux Français qu'il y a des antivirus qui circulent en Europe et en Chine, puisque c'est deux maladies différentes. Il y a ceux des Amériques et ceux de l'Europe et de la Chine. Et on a Santé publique France en 20 ans à repérer 2900 cas d'antivirus de notre vieux monde,
c'est au fond
et qui sont peu mortels.
C'est au fond la question que j'allais vous poser. Est-ce la première fois que l'antivirus des Amériques a en quelque sorte traversé l'Atlantique et qu'il se retrouve sur notre sol?
Ben, à ma connaissance, alors sauf évidemment si on vient me contredire, c'est la première fois qu'un service sanitaire européen prend en charge un patient ou une patiente atteint de ce virus des Amériques à transmission interhumaine, qui reste, je le rappelle, exceptionnel.
Qui reste absolument exceptionnel, mais tout à fait aigu. Vous le disiez, effectivement, la rapidité et la difficulté ensuite à y échapper, en quelque sorte. C'est-à-dire, je voudrais vous interroger là sur deux points. Un, la contagiosité. Ça, vous avez parlé de ce fameux banquet, les 90 minutes. Et puis, ensuite, la question de la mortalité. Est-ce que il faut toucher un malade? Est-ce qu'il faut embrasser un malade? Est-ce qu'il faut avoir simplement reçu ses postillons? Qu'est-ce qui transmet la maladie?
Alors, dans l'épidémie de 34 cas et 11 décès en Patagonie, ils sont très très bien listés. Donc, la majorité des cas, 75%, c'est une transmission par un contact proche, donc la personne qui est assise à table à côté. Transmission qui peut se faire par les fluides, hein, y compris d'ailleurs par relation sexuelle, puisqu'il faut être très clair, donc la salive, la sueur, toutes les sécrétions, les gouttelettes, comme vous l'avez dit, et effectivement, dans un certain nombre de cas, dans 6 cas sur l'épisode de Patagonie, ils ont rapporté ça à une transmission par les aérosols. Mais là, il y a un débat pour dire qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est-à-dire que le Covid, vous le saviez, on en a suffisamment parlé à cette table, on pouvait être contaminé, même s'il n'y a personne, uniquement par l'aérosolisation de l'espace ou par les surfaces. Vous vous rappelez qu'on n'arrêtait pas de nettoyer, etc. Là, on est quand même dans une contagiosité moindre. Mais on ne peut pas dire, alors qu'il est, que c'est que par contact rapproché. Voilà, c'est ça qui est important.
Contagiosité d'ailleurs, moindre. Oui, allez-y.
D'ailleurs, ils sont hospitalisés dans des chambres à pression négative, ce qui explique...
Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est?
En fait, ça veut dire que l'air ne rentre pas.
Il y a deux choses, évidemment. Moi, j'ai besoin, auprès de vous, de trouver des réponses sur la maladie.
Si, j'ai
mais aussi sur les... Bien sûr, savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Est-ce qu'on ne sait toujours pas, d'ailleurs?
Ce qu'on ne sait pas, qui est très important, allez-y. C'est si le taux d'asymptomatique, contrairement à ce qui a été dit par certains collègues, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu de grandes études sérologiques. En Guyane, ils l'ont fait en 2022, quand ils ont eu... un 11e cas en Guyane, ils ont fait une étude sérologique sur les gens qui avaient des infections respiratoires non étiquetées. Bon, ils ont trouvé 1,6% de positifs, donc c'est très peu. Mais on n'a pas fait des études en population générale.
Les asymptomatiques, ça veut dire que...
Comme dans le Covid.
Il faut, parce que je voudrais aussi qu'on en vienne aux réponses, mais pour essayer de comprendre quand même ce que l'on sait, effectivement, de cette maladie, on nous parle de 6 semaines... d'incubation, c'est-à-dire que pendant 6 semaines,
c'est la barre maximum, donc c'est la barre de la surveillance. Voilà, jusqu'à 6 semaines. En moyenne, c'est plutôt 2 semaines.
Est-ce que ça veut dire que entre le moment où vous avez croisé, contacté potentiellement quelqu'un qui était malade et le moment où vous développez les premiers symptômes, il y a 2 semaines en moyenne, c'est ça ce que vous nous dites?
Voilà.
Mais il peut y avoir jusqu'à 6 semaines.
Il peut y avoir jusqu'à 6 semaines, ce qui fixe finalement, si imaginons dans le meilleur des cas que cette personne soit la dernière personne contaminée, parce que ça a changé la donne puisqu'il y avait plus de cas depuis à peu près 17 avril. Donc effectivement, il y a une espèce de tranquillité sur le bateau, de relâchement malgré ce que vous avez dit, s'il y en a 36 au moins qui sont partis dans des conditions un peu dans la nature. Et puis, franchement, il y a les 22 aussi français qui vont rentrer dans les centres de référence.
Certains
qui étaient aussi
soir,
dans la nature.
D'autres ce matin. Là-dessus, vous avez l'air vous-même, et je vous ai appelé hier matin sur BFM TV. Et une de vos premières réactions, je me permettais de vous poser la question de manière assez naïve, mais pourquoi on les a pas laissés sur le bateau? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été les soigner sur le bateau plutôt que de les sortir sur le territoire? Alors, le patron de l'OMS a répondu à une interview de BFM TV hier soir, expliquant, un, qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, et puis deux, que ça serait même une atteinte à leur santé mentale que de les laisser enfermés sur ce bateau.
Exactement.
Mais du point de vue médical, il eût été sans doute plus logique de les garder en quarantaine.
Et épidémiologiquement, l'idéal aurait été d'avoir un système de quarantaine, soit aux Canaries, juste devant, avec un bateau. Mais l'OMS n'a pas les moyens, encore plus depuis que Trump a enlevé 18% du financement de l'OMS.
Je précise que l'Argentine non plus, d'ailleurs, ne fait plus.
Et l'Argentine qui s'est retirée officiellement quelques semaines avant. Alors pour les complotistes, c'est incroyable, parce qu'on dit, l'Argentine s'est retirée, mais c'est parti d'Argentine. Ils font un lien entre les deux choses, ça n'a évidemment pas de lien. Mais c'est vrai qu'on a très peu confiance, et c'est un drame, c'est un trou dans la raquette d'avoir l'Amérique et l'Argentine sur lequel on a des doutes sur la qualité des informations qui vont nous fournir sur la circulation de ces virus.
Il eût été en effet peut-être plus prudent de les laisser sur le bateau.
Bien
une
sûr.
Fois qu'ils ne sont plus sur le bateau, il y a le protocole de chacun des pays. On va revenir sur le cas américain et hollandais, mais du point de vue du protocole français. Il y a d'abord eu, effectivement, de manière systématique, une hospitalisation des fameux 5 membres de la croisière. Et puis, une identification de 8 patients dits à haut risque, c'est-à-dire, enfin, patients, 8 personnes cas contact à haut risque, qui avaient pris le même avion, donc pendant plusieurs heures, dans un habitacle
là,
fermé, avec une personne.
Plus que dans le bateau.
La veille de sa mort, puisque c'est une des personnes qui, elle, ensuite, est décédée. Et puis ensuite, 14 qui, eux, sont considérés comme à moindre risque, n'ayant été que quelques temps le début du voyage, avant qu'elle ne soit débarquée de ce fameux avion qui, lui, devait revenir en Europe.
Mais vous rappelez dans le Covid, au début, on disait les notes de la DGS, c'était de dire on isole, les gens symptomatiques. Après, on a dit c'est les gens un jour avant le début des symptômes. Vous savez, on a bougé. Et par exemple, l'histoire du bateau du Diamond Princess pour le Covid, c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'on pouvait avoir un taux important de personnes asymptomatiques. Je parle du Covid, qui sont contaminants. On n'a pas cette information-là.
On ne sait pas si aujourd'hui des gens qui n'ont pas de symptômes peuvent malgré tout être contagieux.
Voilà, on sait probablement qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques. On ne sait pas s'ils sont contagieux. Mais je veux dire, l'histoire a un élément positif, c'est que le fait que cette patiente, dont j'espère que les choses vont s'arranger, et rentrer dans le système de soins français avec le CNR, l'Institut Pasteur de Paris, celui de Guyane, etc. On va avoir toutes ces données et j'espère que l'Europe va échanger. Et évidemment que l'Europe va échanger les informations pour faire avancer à la fois la recherche et la prévention. Sur ces virus.
Placer l'ensemble des cas contacts à l'isolement renforcé, comme ça a été décidé finalement hier soir, ça vous paraît une solution raisonnable?
Oui, on aurait pu même le faire d'emblée.
Vous regrettez que ça n'ait pas été fait d'emblée?
Non, je regrette pas. Je comprends. Et après, il y a la dimension humaine. Mais il y a quelque chose. Hein, vous savez, auto-confinement, c'est un lapsus. Mais
c'est un peu la même chose. C'est l'auto-isolement. Effectivement, au cas
contact. On en a eu l'expérience, nous, très pratique, pendant l'épidémie de Mpox, de variole du singe, en 2022. On a dit ça à des centaines de personnes. On leur a dit, vous restez chez vous le temps que vous soyez plus contagieux. Et c'était très long, parce que c'était aussi du côté de 40 jours, à cause de la disparition des lésions, des côtes, etc. Pour le Mpox. Et souvent, quand on les appelait et tout ça, on appelait les gens pour leur donner un résultat, savoir comment ils allaient.
Parfois même pour leur dire qu'ils étaient malades.
Oui, on entendait qu'ils étaient dans un restaurant et tout ça. C'est la nature humaine qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer.
Comment vous réagissez à ce moment-là, vous, médecin?
Moi, je vis avec la nature humaine des gens. Donc, il faut faire avec les prises de risque. Oui, je peux pas imaginer que les 22 personnes dont on parle, surtout les 8, et c'est pas du tout un procès que je fais, hein, ont respecté scrupuleusement ne pas sortir de chez eux, de pas
la
se regrouper.
Il y a
des enfants dedans, par exemple.
Est-ce qu'il n'est pas trop tard?
Il n'est jamais trop tard pour prendre des mesures qui sont cohérentes. Après, on verra ce qui se passe pour les 22.
Comment on aimerait
bien, mais ça nous emmène loin, puisque finalement, il faut recompter 42 jours, donc ça nous emmène juin. Quoi.
42 jours, effectivement, et on va être tous extrêmement vigilants. Comment on soigne l'antivirus? Il n'y a pas de médicament, semble-t-il. Est-ce qu'il pourrait un jour y avoir un vaccin?
Alors je commence par la question de la science, c'est très intéressant parce qu'on parlait des États-Unis tout à l'heure. Les Américains d'avant Trump ont très vite repéré dans un centre de recherche militaire. J'ai oublié le nom de la ville, qu'importe. Ils ont commencé des recherches et des recherches assez avancées avec un modèle de virus de vaccin ADN, des phases 1, donc sur des volontaires sains. Donc ils ont déjà des données avec des anticorps neutralisants, etc. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est un risque, on rejoint les sujets précédents, c'est un risque pour leurs militaires, notamment s'il y a des opérations terrestres, forestières, en Amérique du Sud, vous voyez ce que je veux dire, genre Venezuela. Donc il y a une recherche qui est déjà assez avancée et qui va évidemment être accélérée, sauf que, comme vous le savez, il y a un certain nombre de recherches qui sont bloquées par l'administration Trump-Kennedy, notamment sur l'ARN, et que l'ARN est une piste très intéressante de vaccin contre les antivirus qui mutent beaucoup.
Les cas contacts aux États-Unis, pour le coup, eux, n'ont pas été placés à l'isolement.
Oui, alors j'ai effectivement, il y a plusieurs journaux qui m'ont questionné sur ce sujet-là. Il y a eu un volte-face, que normalement ils devaient aller dans le Michigan, tous dans un hôpital, et il y a eu un changement. Mais c'est vrai que tout ça est influencé par la politique sanitaire
et parallèlement,
de Trump et de Kennedy.
En Hollande, une erreur visiblement dans l'application du protocole, et 12 soignants qui n'ont pas appliqué les règles telles qu'elles devaient l'être, et qui se retrouvent eux aussi donc placés à l'isolement de manière préventive. Les 3 personnes qui sont décédées, les personnes qui sont malades, ont-ils un profil similaire? Est-ce qu'il y a un âge, une fragilité particulière que vous pouvez repérer?
Là, c'est pareil, on n'a pas ces informations-là. Évidemment que ce type de virus, en plus, il donne une pathologie respiratoire qui ressemble un peu au Covid, où c'est la réponse immunitaire qui est le plus délétère. Vous savez, on vous rappelait l'orage cytokinique, c'est-à-dire l'orage immunitaire dans l'antivirus, c'est aussi ça qui se passe. Donc probablement qu'effectivement, la logique, c'est que si des gens ont des infections respiratoires et cardiaques, évidemment, c'est un surrisque. Mais dans l'épidémie de 2018-2019 en Pentagonie, il y avait quand même 6 qui avaient moins de 17 ans. Donc voilà, c'est pas une pathologie que du sujet âgé.
Ou les plus fragiles. Ah. Au moment où on se parle, Gilles Pialoux, 24 heures donc après la découverte de ce premier cas, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous diriez que vous êtes vigilant, inquiet, rassurant?
Je crois que tous les experts qu'on questionne, on leur demande alors, c'est comme que vous dites. Non, on n'est pas dans une crainte de pandémie. Il y a beaucoup d'éléments qui vont contre l'idée d'une pandémie. Il faut être très clair là-dessus. Faire entrer dans un pays un virus, même si sa transmission interhumaine est rare, même s'il y a probablement, c'est mon hypothèse à moi, après on verra si j'ai tort, la conjugaison de plusieurs événements rares. Un, une transmission interhumaine qui est elle-même déjà rare, donc il faut déjà aller chercher le virus des Andes. Deux, le fait qu'on soit dans un univers confiné, un bateau, c'est une caricature. Et trois, et c'était le cas de la Pentagonie, ce qu'on appelle les super spreaders, les super excréteurs, et c'était le cas du cas index. Il est possible que ça soit aussi le cas. Donc on mélangerait les cas de rareté, qui fait que, globalement, on va avoir une épidémie circonscrite. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que effectivement les cas contacts, les gens qu'on n'a pas suivis, ceux qui sortent des écrans radars, le fait que sur le bateau, quand même, l'alerte sanitaire a été mise très tardivement, vont faire que on aura une épidémie, et une épidémie qui inquiète les gens. Voilà, ce sera une épidémie circonscrite. Mais vous pensez bien que... Après, il y a l'irrationnel et on sera. Voilà, c'est pour ça qu'on parle plutôt des épidémies type SRAS, etc.
Et c'est pour ça que vous appelez aussi à l'humidité ce matin. Merci beaucoup, professeur Gilles Pialoux, d'avoir répondu à mes questions. Chef des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Nombreux livres, mais je cite votre dernier. Ça s'appelle Admiration et vous brossez le portrait de cette figure marquante de l'histoire de la médecine, justement. Et c'est aux éditions Perrin. Il est 8h48 sur AMC BFM TV.
Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup débarque avec toutes ses imitations.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisité par Nicolas Canteloup. Gilles Pialoux, le professeur, était mon invité dans le face-à-face ce matin. Il est resté avec nous. Rebonjour, professeur.
Rebonjour.
Eh bien, figurez-vous que le président Emmanuel Macron voulait réagir.
Je suis malade, complètement malade.
Non, mais enfin, tout de même, enfin, on s'adresse au président, pas au chanteur. On sait bien désormais que vous êtes également chanteur, Emmanuel Macron. Vous êtes en Afrique, vous vous êtes longuement entretenu avec Sébastien Lecornu. Qu'avez-vous dit au Premier ministre?
Si on devait mourir demain.
Non, monsieur le président, sérieusement.
Voilà, c'est fini. Non. Je vais vous confiner à partir de midi.
Non. Monsieur le président, on est à l'antenne.
Mais oui, mais pardon, je suis un an de la quille, voilà, je peux me détendre un peu, voilà. En plus, je suis en Afrique, je risque rien, donc je m'amuse, voilà. Par contre, j'aimerais en profiter, puisque vous êtes avec le professeur Piu Piu.
Non, c'est Pialoux, Pialoux.
Oh oui, ah, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petit. Oui. Canteloup, Pialoux.
Voilà, j'étais pas loin. Oui, non, le professeur Piu Piu, c'est pour la grippe aviaire.
Oui.
Bref, j'ai détecté, je m'adresse à lui, et peut-être peut-il m'éclairer, j'ai détecté un syndrome qui m'inquiète un peu, je vous explique. Depuis quoi? Une petite dizaine d'années, je sens autour de moi une sorte d'épidémie de mécontentement.
Ah oui,
un peu partout en France, où que j'aille, je sens comme une gêne, une démangeaison avec des sortes de clusters de casse-couilles.
Ah, des clusters de casse-couilles, monsieur le président, oui.
De-ci, de-là, oui. Par-ci, par-là, celles et ceux.
Oui.
Pourtant, j'ai pris des mesures sanitaires drastiques. Oui. J'ai changé 7 fois de Premier ministre, j'ai dissous l'Assemblée au gel hydroalcoolique pour que les Français puissent changer leurs députés avec des parlementaires tout propres. J'ai tout fait, j'ai organisé des JO, ça a été une réussite. Nous avons gagné, nous sommes champions du monde en 2018. Enfin, voilà, je ne sais plus quoi faire. Certains disent que ça viendrait de moi, que c'est moi qui serais porteur du virus. Oui. Mais enfin, pardon, mais je suis sûr que même quand je serai parti de l'Élysée, il y aura encore de la grogne et du mécontentement. Donc ça ne peut pas venir de moi.
Non.
Est-ce que j'ai une hypothèse? Je pose la question au professeur Piu Piu. Est-ce que ce ne serait pas plutôt les Français qui seraient porteurs du virus?
Ah.
Mais du coup, je vais quand même pas abattre tout le troupeau.
Ah non, non, merci beaucoup. D'ailleurs, le professeur Gilles Pialoux va étudier tout ça. Merci, monsieur le président. Le professeur Didier Raoult aussi voulait réagir.
Ah. Oh mon Dieu.
En tant que sommité mondial de l'épidémiologie, je tiens à saluer Gilles Pialoux, même si à l'époque de la Covid, il m'a chié dans les bottes, enfin dans les Santiago.
Oui, c'est ça.
En tant que professeur de l'unité Saint-Algue et Jean-Louis David de l'hôpital Harley-Davidson, cette épidémie qui se profile, c'est inespéré.
Ah oui.
Je vais pouvoir enfin refaire un peu de télé, un peu de radio pour expliquer que j'ai, moi seul, la solution. Quelle est-elle ?
Quelle est-elle ?
Toutes les études du laboratoire de mon garage le montrent, confirmées par celles de ma buanderie, pour éradiquer définitivement l'antivirus qui est propagé par des rongeurs, il suffit d'associer en bithérapie de la chloroquine avec la morora.
Ah oui, ah bah c'est vrai, c'est efficace ça, dis donc.
Les chiffres sont implacables. Ah oui. Parmi tous mes patients décédés, aucun n'est mort à cause d'antivirus.
Ah.
Donc ça marche dans 100% des cas.
Voilà. Quelle efficacité, merci.
Prends-en la graine, Pichou.
Professeur Didier Raoult. Tout de suite, on retrouve Marc-Olivier Fogiel, tiens, pour les titres de l'actualité.
Bonjour, Marco. Eh oui, bonjour. Salut. Apolline. Oh, t'as vu ce nouveau virus? C'est pas bon, ça fout les chocottes. Il me tarde qu'on parle enfin de sujets qui font moins peur, comme la guerre en Iran, par exemple. Bah quoi, c'est la guerre la plus cool du monde. C'est juste des bateaux qui bougent pas dans un détroit. Même sur le périph', ça bouge plus. Tellement il se passe rien, il passe que des images d'archives, t'as vu, hein? Bah si, c'est des archives. Ils ont tellement utilisé toutes les images d'archives qu'ils en ont plus. L'autre jour, ils ont passé des images du Vendée Globe, non, tellement ils sont à la ramasse, non, à la rédac. Non mais tu vas voir que demain, ils vont nous passer des images de la guerre de 14 de Christophe Colomb sur sa caravelle qui découvre l'Amérique. Allez, c'est parti pour les titres. Une passagère française a été testée positive à l'antivirus. Mon conseil écho du jour, que m'a soufflé Emmanuel Le Chips. Pardon, j'ai écorché son nom. Emmanuel Les Chips, pardon. Des actions Xerox. Acheter des actions Xerox, des actions Epson, des actions Lexmark. Ben oui, ça va grimper en flèche avec toutes les attestations de sortie qu'il va falloir imprimer. Allez, on se détend un peu avec le Festival de Cannes, oui, qui démarre ce mardi. Ben non, mais on s'en fout des films en salle. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les prochaines sorties Netflix. Ben oui, pour savoir ce qu'on va regarder pendant le prochain confinement.
C'est ça, merci Marco. Allez, pour faire un point sur l'antivirus, on reçoit une pharmacienne de métier, ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot.
Oui. Ça va, Pauline? Alors, cette fièvre? Non, oh, non, pas encore.
Non, pas encore.
Mais
non,
rassure-toi, ça va venir dans quelques jours. Tu vas y passer, rassure-toi. Bah, ben, à force de recevoir des médecins, des soignants, des épidémiologistes, que des gens en contact avec les malades. Non. Ben, si toi, t'es pas sous assistance respiratoire dans les 3 semaines, c'est que j'y comprends plus. Oh,
rien. Bah, c'est rassurant, merci beaucoup, Roselyne.
Ben oui, mais enfin, faut voir le positif. Comme tes enfants seront qu'à contact, vous serez confinés tous ensemble pendant 45 jours. 45 jours avec tes 4 enfants, 24 heures sur 24, et toi tranquille au lit à rien faire avec des tuyaux dans le nez.
Oh hein, non.
Est-ce que c'est Roselyne, pas le rêve de toutes les mamans, ça?
Non. Hein,
et puis t'auras plus besoin de te lever aux aurores pour poser 3 questions à la con au professeur Pialoux quand c'est rien du tout, au général Burlou qui est plus dans le coup. Hein, allez, tous vous contaminer avec les grandes gueules que l'ouvert.
Merci beaucoup, oui. Les grandes gueules sont là, il est là avec nous. Merci beaucoup, Nicolas Cantou. Merci au professeur Pioupiou Pialoux d'être resté avec nous. Alain Marchal est là. Quelle est la suite du programme?
Eh bien, les Gigi, les grandes gueules, dans un instant, en direct sur RMC et RMC Story. Nous reviendrons sur ce qui s'est passé quand même hier dans le quartier des Moulins à Nice avec un tireur à la Kalachnikov. Il est arrivé en voiture, il est allé sur une trottinette, il a fait feu, il est reparti en trottinette, il a repris une voiture. Mais enfin, il y a quand même 2 morts et 6 blessés. Que se passe-t-il dans le quartier des Moulins? On tire à l'aveugle pour faire peur aux habitants. Si vous voulez témoigner, c'est le 32-16 pour vous. On reviendra aussi sur le PSG. Il n'y aura pas de fan zone pour la finale de la Ligue des Champions. La préfecture dit qu'ils n'arriveront pas à sécuriser une fan zone et 3 concerts géants le soir même. On a su mettre 35 000 policiers pour les Jeux Olympiques, mais on n'arrive pas à faire une fan zone pour le PSG. Quand même, c'est assez pitoyable. Voilà, vous voulez réagir, le 32-16 est à votre disposition. À tout de suite. We'll be right back.